France Culture. Les nuits de France Culture.
En 1987, Didier Daninx publiait dans la collection Série Noire de Gallimard un roman intitulé « Lumière noire ». Un roman avec pour décor l'aéroport de Roissy que le cinéaste Medondo devait adapter au cinéma quelques années plus tard. Peu après sa parution dans Les Îles de France, Simone Dweck accompagnait Didier Daninx à Roissy sur les lieux du crime de ce livre, dont le seul témoin est un jeune Malien retenu dans un hôtel de l'aéroport avant son expulsion. Pour les auditeurs de France Culture, Didier Daninx donnait sa perception de ce monde hors du temps qu'est l'aéroport de Roissy et ses abords immédiats, en expliquant ce qu'avait d'inspirant pour un auteur de romans policiers tel que lui, cet univers clos et balisé dans lequel les êtres humains ne sont que de passage. Didier Daninx, enfant de Stains et d'Aubervilliers, qui, en familier de tous les recoins de la banlieue nord-est, se souvenait de Roissy d'avant les avions et d'un temps où une certaine banlieue était accueillante et chaleureuse. Une émission diffusée le 15 février 1988 sur France Culture.
Les îles de France. Un auteur, Didier Daninx. Un roman, Lumière noire. Un aéroport, Roissy en France.
La chose qui apparaît, mais vraiment qui est fascinante, c'est que le ciel est découvert. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a cette vision-là, c'est-à-dire que la nature existe là. En même temps, il y a cet aspect technologique très très fort, il y a toutes les lumières, il y a tous les repérages, tous les systèmes de sécurité lumineux qui planent, il y a les tours de contrôle, enfin, qui est en forme d'espèce de corolle, comme ça, c'est bon. Et il y a au-dessus le ciel, mais il y a vraiment une demi-sphère avec des nuages, avec des étoiles, avec en plus un endroit qui est pris par le vent, Roissy. Donc il y a un vent très très fort, c'est-à-dire que la nature qu'on reçoit pas à Paris, ou qu'on reçoit différemment, le vent on le reçoit différemment à Paris. Le vent, on le perçoit comme un courant d'air, vraiment comme un courant d'air. Ici on le perçoit comme le vent, donc il y a ça qui est là, il y a les nuages, on voit les nuages sur des kilomètres avancés, se disperser, on voit tout à l'heure la grêle, on voit les éléments quoi, sur Roissy. Et en plus c'est un lieu qui invite à lever le nez, quoi, puisqu'on regarde les avions, donc c'est un lieu où on lève la tête. À Paris on baisse la tête, donc il y a un petit peu cette... Godard il disait ça pour le cinéma et la télévision, mais sur Roissy et Paris c'est pratiquement pareil. Il y a les éclairages, il y a les couleurs sont différentes. Et surtout, c'est qu'on a la perspective. On a des étendues, on arrive à voir à 3 km, 4 km de distance. On embrasse vraiment l'horizon. Il y a cette présence de l'espace. Hein, qui est, pour quelqu'un qui est banlieusard ou parisien, ça existe pratiquement pas.
«
c'est vraiment une uniformisation d'espèces de construction métallique avec des poutrelles, avec de l'alu, comme ça, tout est abaissé, tout est aseptisé complètement et rien n'est transparent. C'est-à-dire c'est le règne de la ferraille qui masque et puis de la vitre miroir qui renvoie sa propre image mais qui ne permet pas de voir à l'intérieur.
Un romancier à Roissy. Ce voyageur sans bagage, identité banlieue au regard clandestin. Didier Deninx, en pull et blouson cuir sur fond étoilé des nuits d'aéroport, nuages gris et nuits sans lune, tour de contrôle et avion blanc. Portrait millimétré d'un lieu mythique, parce qu'un œil insolent et pudique a découvert le fil du temps, là où tout est passage.
Ce que je voulais faire, c'était être avec une vue sur l'aérogare numéro 1, sur la piste numéro 1 qui est la plus fréquentée. Et bon, je me suis retrouvé obligatoirement sur l'arrière de l'hôtel. Il a fallu que je change de chambre, mais c'est un hôtel avec des chambres extrêmement exiguës qui est conçu aussi, l'architecte l'a conçu comme quelque chose où les gens, s'ils passent une nuit, c'est pratiquement extraordinaire. C'est-à-dire que c'est fait pratiquement pour passer quelques heures. J'ai l'impression qu'il y a très très peu de gens, en fin de compte, qui passent une nuit entière. On arrive à 11h, à minuit par un vol, et on repart par un autre vol à 6h. C'est fait aussi pour des gens qui viennent 2h, des gens importants ou des gens qui travaillent, qui ont besoin d'être au calme et qui viennent là 2h pour mettre au point un dossier ou des choses comme ça. Ça a l'air d'être vraiment ça. Donc là, c'est des chambres, c'est des cellules monacales, avec les fenêtres qui s'ouvrent pas, parce qu'il y a le bruit, parce qu'il y a les odeurs de kérosène, tout ça, donc et puis l'air conditionné. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pesant aussi, cet hôtel. En plus, celui dans lequel je suis allé, c'est un hôtel qui est branché sur le RER, donc qui est branché en direct sur Paris, avec un espèce de bar qui est un bar de banlieue assez, pas interlope, mais assez poussiéreux, tout. Donc c'est un espèce de quelque chose qui est entre deux mondes, comme ça, et qui veut se donner l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Donc il y a un petit peu ce caractère dans cet hôtel. Donc ça ne fonctionne pas comme un hôtel. Moi, j'ai l'impression que c'est un foyer. C'est pratiquement un foyer amélioré où on a mis un petit peu de moquette. Donc on a plutôt l'impression de ça. Ça rajoute au côté un petit peu transit. Rien n'est permanent, quoi, sur la zone. principale chose moi qu'il y a eu, ça a été cet hôtel qui représente le lieu du transit, qui représente un endroit de pause entre deux destinations. Quelqu'un qui vient d'Australie, si c'est possible, d'Australie, qui arrive à Roissy, qui repart à New York, qui va passer une soirée là, entre deux avions. Donc c'est l'image de la modernité, l'image clean et tout. Et puis en fin de compte, pour moi, quand j'ai su que c'était là qu'on parquait aussi les immigrés qu'on renvoyait par paquet, par charter, ça me renvoie à l'image de l'esclavage. C'est-à-dire ça me renvoie à autre chose, ça me remet deux siècles en arrière. C'est le port de Bordeaux, c'est le port de Nantes, c'est le port du Havre avec les négriers. Un départ d'avion n'équivaut pas à un départ d'avion, c'est-à-dire que dans les avions, il n'y a pas les mêmes personnes. Et là, il y a les gens qui partent à Honolulu et puis il y a les gens qui partent à Bamako, encadrés par les CRS. C'est-à-dire que la même chose, le même mouvement harmonieux d'un avion qui s'arrache au sol signifie pas la même chose. Donc ça, quand on a ce regard-là, moi je le décrypte, c'est-à-dire que les choses m'apparaissent comme ça.
Il est étrange de regarder vivre un lieu à la fonction aussi évidente et simple à définir en étant porté par une sensibilité, en laissant se tisser toutes les dramaturgies possibles, en happant le détail le plus simple. En sortant du satellite, où chaque voyageur se laisse porter le cœur battant vers la zone internationale et le décollage. Arpenter, comme un ange, l'air de l'aérogare. Nul ne sait comment l'ange connaît tous nos désirs et devient passe-muraille de tous les secrets. En suivant Didier Deninx à Roissy, nous voulions ne pas aller chercher nos billets, ne pas enregistrer nos bagages, ne pas entendre les annonces voix aérogare, ne pas présenter nos passeports, ne pas acheter d'alcool en détax, ne pas attendre le départ. Mais, cependant, nous voulions tout cela. Et aussi, que les choses vacillent un peu, parce qu'un homme et un lieu se rencontrent.
Roissy, c'était une région qui m'intriguait depuis assez longtemps, par le fait que c'est un petit peu comme la nomment les gens d'ici, une plateforme. C'est-à-dire que c'est une espèce d'énorme étendue de béton qui a été choisie pour faire un aéroport il y a une vingtaine d'années, et que ça aurait pu être 10 km plus loin, 10 km plus près. près de Paris, ça changeait absolument rien à ce qui s'y passe maintenant, et que ça fonctionne comme une île ou comme une plateforme pétrolière un petit peu. Donc c'est une espèce d'entité comme ça qui est un satellite de la ville de Paris.
Une station orbitale presque.
Oui, complètement, qui est reliée par des tuyaux qui sont une autoroute, A1, une liaison RER, et puis il y a cette espèce d'énorme qui est, j'allais dire ville, mais c'est pas une ville, parce que en même temps qu'il y a énormément de gens, il y a des millions de personnes qui y passent, en même temps il n'y a pas les fonctions de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de commerce, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de gens qui sont aux fenêtres. Donc il manque toutes ces choses-là qui sont véritablement la ville. C'est un lieu où on a du mal à se promener à pied, on ne se promène pas à pied. Ou alors quand on se promène à pied, c'est dans des endroits clos. Sinon c'est le règne de la voiture, le règne de... D'une voiture, je sais pas, on est presque sur des rails parce qu'on sait pas trop où on va, c'est des itinéraires obligés. Puis en plus, c'est, disons, un endroit clos. Alors le roman policier est souvent fasciné par les lieux clos. Et disons que là, Roissy, c'est un petit peu ça aussi. Du pont qui s'appelle le pont de Stein. D'un seul coup, on voit toutes les collines de Romainville, toutes les tours dressées. On voit le périphérique, on voit l'eau du canal, les péniches, tout un tas d'entrepôts avec les couleurs rouge et bleu des entrepôts, des magasins généraux. Et il suffit de se retourner et là, on a une vue splendide sur les toits vert de gris de la basilique de Saint-Denis. C'est un des plus beaux paysages de banlieue que je connaisse quand on se met sur le pont de Stein qui est vraiment à 500 mètres de chez moi. C'est aussi beau pour moi que le départ du métro aérien de Passy. Quand on est tout en haut, qu'on le voit traverser la Seine, il y a vraiment une très très grande beauté de ces images-là. C'est un lieu aussi que je connais avant que ça existe tout ça. C'est-à-dire que déjà à l'école, j'avais un copain qui habitait à Roissy et dont le père élevait des moutons. Il s'appelait Tibessard. Il a été viré de cet endroit-là par la naissance de l'aéroport quand ils commençaient à acheter les terrains, parce qu'ils ont acheté les terrains il y a 30 ans déjà.
Mais il y a toujours le petit village de Roissy en France.
Il y a toujours le petit village, mais bon, il n'y a plus grand monde et puis il n'y a plus de ferme, hein, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien de tout ça hein, dans les petits villages qui entourent Roissy. Donc Roissy, c'était pour moi, quand j'étais à Aubervilliers à l'école, il y avait un gars qui venait tous les matins de Roissy, qui était là et puis qui était à la campagne. Pour moi, c'était cette image-là. Ensuite, Roissy, je l'ai connu aussi parce que j'ai travaillé juste à côté à Villepinte. Et donc, comme je m'occupais de publications municipales, c'était un endroit où il y avait beaucoup de gens de Roissy qui habitaient Villepinte. Et par exemple, il y a une cité qui existe toujours, c'est quatre énormes tours vraiment très, très lugubres à Villepinte, ça s'appelle la Cité de l'Europe. Et à l'intérieur, il y avait une majorité de douaniers et de policiers de Roissy. C'est-à-dire qu'il y avait une cité qui était une cité de douaniers et de policiers à tous les étages. La douane à tous les étages sur quatre. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant quand on travaille dans une ville. Il y a cette présence massive de l'aéroport, mais dans un espèce de ghetto béton, comme ça, où les gens partent de quatre tours et viennent ici, quoi. Il y a un univers, moi, qui m'intéresse, c'est l'univers d'une certaine banlieue, parce qu'on parle souvent de la banlieue, mais les banlieues sont extrêmement multiples. Le Vésinet n'a rien à voir avec Saint-Denis, donc moi je parle toujours de banlieue avec un pluriel bien marqué. Et disons que ça appartient, Roissy, au changement brutal d'une banlieue que je connais, qui est la banlieue industrielle de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que bon, je connais bien... tous les coins comme La Courneuve, comme Stein, comme Saint-Denis, comme Aubervilliers, Montreuil, Pantin, c'est des lieux que j'arrête pas de sillonner et que je sillonne depuis très très longtemps.
Où vous habitez aussi ?
Oui, puis où j'ai travaillé dans des usines, dans toutes ces villes, j'y ai travaillé. Donc je connais vraiment les gens de la manière dont ils fonctionnent. Et d'un seul coup, la zone de Roissy, elle a fait naître une espèce de marée d'entrepôts. Et le travail devient le travail du Fenwick et le travail de l'assemblage. C'est-à-dire que Roissy, c'est des avions cargo aussi qui déchargent des tonnes et des tonnes de matériel informatique en pièces détachées dans tout un tas de hangars de fret, de zones de fret. Et ensuite, ça vient sur des palettes avec des transpalettes et des Fenwick qui apportent ça dans des camions à gare au nord, sur les zones Paris Nord 2, enfin rien que les noms. C'est-à-dire que c'est même plus des villes. On appelle ça Paris Nord 2, Gare au Nord. Enfin bon, il y a quelque chose qui se passe qui est pour moi assez, assez terrible. Et donc toutes ces marchandises-là viennent dans ces entrepôts. Il y a simplement du montage et du magasinage. Et où les gens, qui étaient des gens qui travaillaient et qui transformaient la matière dans toutes les usines de toute la Seine-Saint-Denis, deviennent des gens qui font un travail vraiment secondaire.
Dans une petite ville de banlieue qui s'appelle Stein, donc qui est au-dessus de Saint-Denis, vers Pierrefitte, enfin des coins comme ça. Et c'était un coin qui renvoie au début de l'extension de la banlieue, au début du siècle, c'est-à-dire la loi Loucheur, des choses comme ça. Et c'était les lotissements, donc tous les ouvriers qui ont habité en banlieue assez éloignée pour l'époque, hein, Stein ou Pierrefitte, c'était des banlieues éloignées, et qui construisaient eux-mêmes leur bicoque. Donc c'était des terrains où il n'y avait pas de rue, où il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait pas de toutes ces choses, et les gens construisaient eux-mêmes. Alors j'ai un grand-père qui a construit sa baraque avec des matériaux de récupération. Puis ce grand-père, c'était un gars qui avait déserté en 1917 sur les tranchées, parce qu'il était tout simplement anarchiste, et donc qui avait été recherché pendant Pendant 2 ans et demi à peu près, il avait vécu en clandestin, aussi bien à Stein, Saint-Denis, Aubervilliers, avec des faux papiers. Et il vivait avec les papiers de ses copains qui avaient été tués au front. Il maquillait les photos. Donc, moi, la banlieue, c'est un petit peu cette image-là qui est très très forte. C'est-à-dire, c'est un réseau aussi. C'est-à-dire, c'est l'image de ce grand-père-là est vraiment quelque chose de. En plus, il m'a élevé pour une part. Donc, j'ai vécu avec lui pendant assez longtemps. Et donc, ça renvoie à cette image de cette maison construite soi-même. Qui est faite pas à sa mesure, parce que c'était à la mesure de ses moyens, mais qui était faite avec la solidarité des familles qui vivaient dans le même quartier. Donc c'était une vie de quartier très très riche, où tous les gens se connaissaient, où tous les gens travaillaient à peu près tous dans les mêmes boîtes, connaissaient les mêmes aventures, les mêmes vies. Donc, puis cette image aussi de banlieue où quelqu'un peut vivre. Pendant cette période-là, enfin 18, 19 et tout, avec des familles qui donnent les papiers des morts, c'est-à-dire avec une banlieue accueillante, une banlieue aussi, même dans ces conditions-là, sécurisante. Donc moi, cette image-là, c'est une image qui est mythique, mais qui n'est pas simplement mythique, qui fait partie d'une référence que j'ai pour réfléchir sur la banlieue.
Ciel ouvert. Devant nous, les larges pistes sur des kilomètres et les avions qui glissent, ventrus ou effilés, presque silencieux parfois, si le vent tourbillonne et emporte leur son. Et tout à coup le Concorde, dans la pluie et le ciel brumeux, tonnerre du décollage et ses ailes d'oiseaux vivants se noient dans les nuages. À ciel ouvert. La grande plaine, habillée d'équipements, d'usines, d'entrepôts. Le domaine des engins roulants. Et soudain, on ne sait dire où, deux joggers, inspirés 2 fois, soufflés 3 fois. Pour eux peut-être, ces 2 cèdres survivants au milieu des aérogares, des hôtels de béton et des parkings couleur de voiture. Petites fourmis voyageuses dans les ascenseurs et dans les satellites. Roissy, unité centrale. Zone centrale ouest. Entretien. Unité centrale est. Zone de fret. Zone technique. Aérogare 1. Aérogare 2. Pierre de Dieu, responsable des aérogares.
Un petit peu dans un théâtre dont les passagers sont les acteurs. Et bien nous, on est les régisseurs, les machinistes, les éclairagistes, enfin tous ceux qui font marcher tout cet ensemble-là. Et pour faire marcher ces aérogares-là, il me faut une équipe de 400 personnes à peu près qui travaillent jour et nuit. Et il y a également une autre équipe de 400 personnes qui, elle, va être spécialisée dans le traitement des passagers, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'enregistrement, qu'ils vont faire la livraison de bagages, qu'ils vont faire du traitement d'avion à proximité des bâtiments pour le nettoyage, pour l'approvisionnement des bagages, pour le déchargement du fret. Voilà. Donc en tout, une équipe de 800 personnes à Aéroport de Paris directement sur les aérogares. Actuellement, pourquoi faire ? Eh bien, pour traiter, en 1987, 16,5 millions de passagers, qui sont à peu près également répartis sur la gare 1 et sur la gare 2, c'est-à-dire 8 millions de passagers sur la gare 1 et la gare 2, ce qui représente en pointe alors quelque chose comme une moyenne de 30 000 passagers par jour. Et en pointe, on monte jusqu'à 40 000, 45 000.
Vous parliez tout à l'heure du théâtre Roissy, des éclairagistes, des machinistes, des régisseurs.
Oui.
Il y a un metteur en scène.
Le metteur en scène principal se trouve dans la tour de contrôle, bien sûr. C'est lui qui règle le balai des avions et qui décide du mouvement d'un avion lorsqu'il est au sol. Un avion ne peut pas quitter son poste de stationnement s'il n'a pas autorisation de la tour de contrôle.
Et le quotidien, il est fait de quoi, ici ?
Bien, il est fait de petites choses, d'une panne sur une porte automatique, d'un chauffage qui ne marche pas, d'une bascule qui n'est pas juste, d'une femme qui a perdu son sac, de quelqu'un qui tombe sur un tapis roulant, ou alors d'une alerte à la bombe parfois.
Ce matin, on s'est déjà levé vers 6h. Le décollage était prévu à 8h15. Après, c'était le petit déjeuner à Genève, dans le crew house. On a un hôtel qui appartient à Swissair, là-bas. Enfin, un hôtel, c'est justement ce qu'on appelle un crew house. Il n'y a en principe que des équipages. Après, c'est le déplacement du crew house à l'aérodrome pour se préparer le vol d'aujourd'hui. Là, nous avons la possibilité de nous informer sur les situations météorologiques dans le monde entier, en fait. Bon, ce qui nous intéressait, c'était l'Europe centrale, plus précisément la région Paris et Genève.
Un copilote de la Swissair.
Pour préparer le vol. Ensuite, on a des informations des aérodromes qui sont enregistrées dans l'ordinateur, que nous pouvons faire sortir pour notre vol, précisément, où sortent seulement les aérodromes, les chemins de vol que nous voulons. Donc ici, ce sera Charles de Gaulle, Orly, Beauvais. Et pour le retour, Genève, Lyon, Zurich, Bâle et cette région. Et aussi sur ordinateur, nous avons les plans de vol qui peuvent être appelés. Donc nous avons le plan de vol de Genève à Zurich et de retour qui sortent directement en même temps. Et avec toute cette paperasse, comme on appellerait ça, nous pouvons préparer le vol. La durée de préparation de vol est normalement 1 heure, environ 20 minutes sur la table, donc en théorie. Justement, préparation météorologique, préparation des informations des aérodromes pour calculer le fuel nécessaire pour faire le vol. Et ensuite, le reste de la préparation se fait dans l'avion, préparation de l'avion lui-même, préparation du cockpit et mise en marche des réacteurs, chargement et tout ça, pour partir ensuite sur Paris. Et ici à Paris, il se passe en principe exactement la même chose.
Et vous avez décollé à quelle heure de Genève ?
Nous avons décollé à 8h15, précise. 8h10, nous avons mis les réacteurs. 8h05, nous avons mis les réacteurs en marche. 8h10 environ, nous avons fait le roulage en direction du début de piste. Un décollage tout à fait normal en direction de Paris. À Genève, relativement rapidement, nous sommes sortis des nuages en dessus. Il faisait grand beau, magnifique. C'est aussi une des beautés de notre profession. Tous les jours, on peut voir le soleil par-dessus. Et ensuite, redescendu en direction de Paris. Dans la région de Paris, il y avait déjà à très haute altitude des nuages et relativement rapidement, nous sommes entrés dans des zones de pluie avant de descendre en dessous des nuages à une altitude d'environ 1500 mètres mer. Nous sommes arrivés à Roissy à 9h20 environ. Oui. C'est un aérodrome où il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de monde qui arrive, il y a beaucoup d'avions qui arrivent en même temps. C'est intéressant, donc il y a toujours du travail, il y a beaucoup de coordination. C'est un aérodrome très intéressant à approcher. Par beau temps, c'est magnifique, naturellement, avec la ville légèrement à gauche sur le fond quand on approche en 27. Sans ça, quand il fait mauvais temps, la piste est devant, on ne voit pas grand-chose de plus. Mais c'est un aérodrome qui est aussi très intéressant au point de vue météo. Il y a de temps en temps du brouillard, elle est en catégorie 3, et Swissair ayant des avions qui ont l'autorisation d'atterrir en catégorie 3, il n'y a aucun problème, on peut atterrir par tous les temps, ce qui est magnifique naturellement. C'est une grande possibilité qui nous avantage beaucoup, c'est clair.
Et Roissy, pour vous, c'est le lieu donc que vous voyez en atterrissage, ou est-ce que ça représente aussi un lieu d'escale particulier où il y a une ambiance particulière?
C'est un lieu d'escale pour nous aussi, vu qu'avec les avions de Genève, on a 2 heures d'attente, ce qui nous permet de visiter un peu l'aérodrome, de voir un peu le satellite. C'est intéressant. La plupart des aérodromes, nous restons juste 40 minutes, donc juste le temps de repréparer l'avion pour repartir. Tandis qu'ici à Paris, nous avons quand même l'occasion d'entrer, d'aller voir un peu l'ambiance du pays. Bon, c'est clair, c'est restreint, mais c'est quand même l'ambiance d'un aérodrome. C'est une ambiance française, comme on dit, c'est un peu plus légère que chez nous. Bon, il y a de l'ambiance café aussi, café de rue, des petits cafés qui se trouvent à l'intérieur dans le hall central. Il y a un peu d'ambiance chaleureuse d'accueil.
Il y a un endroit qui est les zones techniques où on répare les avions. Et là-dedans, quand les grandes portes s'ouvrent, c'est des portes qui font peut-être 15 mètres de hauteur sur 50 mètres de long. Et ces portes-là glissent comme ça. Puis il y a des 747 cargo avec le bout du nez comme un nez de clown comme ça qui est soulevé. Et à l'intérieur, je suis monté dans des avions cargo qui sont vides. C'est grand comme un gymnase. Enfin, ça donne une impression incroyable comme ça. Et c'est les cargos dans lesquels on charge des containers. Donc c'est des rails qui sont à l'intérieur pour que les containers glissent. Donc c'est des impressions comme ça d'immensité quand on est dans des cargos vides. Donc il y a ça, puis à côté, il y a quelque chose qui fait mal au cœur. Il y a un avion qui est presque humain, qui est le Concorde. Et il y en a un exemplaire qui vole, et il y en a tout un tas d'exemplaires du Concorde qui servent à nourrir le Concorde qui vole. C'est-à-dire que comme les pièces sont plus fabriquées, on prélève sur des Concordes des pièces qu'on va mettre sur celui qui est le dernier de l'espèce. C'est le dernier oiseau de l'espèce, comme ça, et dans le hangar, il y a les oiseaux blessés.
Bagages de tous les avions qui vont être concentrés dans cet endroit.
Qui vont être concentrés, triés, répartis, éventuellement mis en conteneur pour certains appareils et orientés évidemment sur le bon aéronef.
Véritable usine.
Oui, absolument. C'est ici qu'aboutissent les bagages qui sont confiés par les passagers au poste d'embarquement. Les bagages donc descendent dans ce sur-tapis roulant, dans ce hall, dans cette usine, comme vous dites. Et c'est là qu'ils sont répartis en conteneurs et dirigés sur les aéronefs.
Tout ce qu'on voit ici sont donc des tapis roulants.
Absolument.
Et puis des tonnes de fourgons en tout genre, oui. Et puis des petits Fenwick qui...
voilà.
Qui tire ces fourgons.
Oui, les bagages arrivent sur tapis roulant, sont captés, répartis sur ces chariots ou mis en conteneur en fonction de leur destination.
Entrepôt multiplié par caisse, facteur commun Fenwick. Des kilomètres de rayonnage pour le supermarché le plus mystérieux. Diamants, alcool, tissus, machines-outils. En zone de fret, balai des camions et des avions. Royaume des initiés.
Les zones de fret, c'est... des centaines de milliards de marchandises qui n'arrêtent pas d'arriver, donc c'est la caverne d'Ali Baba. Il suffit de puiser, c'est un lieu de délinquance, de vol, de trafic vraiment intense, vraiment intense. C'est un lieu de concentration policière, c'est un lieu où on ne les voit pas, mais la DST est présente, la DGSE aussi, les renseignements généraux et tout, obligatoirement, puisque c'est un lieu où il y a les personnalités politiques, où il y a les diplomates et tout, donc c'est un lieu où le pouvoir est très 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 puissant, en fin de compte, même s'il est pratiquement invisible. Donc tout ça, pour l'imaginaire, c'est vraiment excitant de savoir qu'il y a toutes ces choses-là.
Tu peux répéter, Anne ?
Oui, c'est 2,15 et 80.
Du moment que les portes de l'avion s'ouvrent jusqu'au moment où on les referme, c'est de la responsabilité du chef d'escale. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui se passe à terre.
Ernst Rulli.
Ou dans d'autres termes, du moment qu'un passager entre dans les hangars jusqu'au moment où il est assis dans son fauteuil à bord de l'avion.
Chef d'escale à la Swissair.
C'est la responsabilité du chef d'escale de voir pour que tout se passe au mieux. L'enregistrement des passagers et des bagages, avant même, dans certains cas, la vente de billets. Il y a de plus en plus de passagers qui achètent leurs billets aux aéroports, surtout les hommes d'affaires qui sont pressés et qui ne veulent pas s'amuser à passer à une agence. Eux, ils achètent leurs billets à l'agence de la compagnie à l'aéroport même. Ensuite, la responsabilité du chef d'escale, c'est l'embarquement des passagers, c'est l'assistance aux passagers particuliers, tels que enfants non accompagnés, VIPs, passagers handicapés, etc. Il est également de la responsabilité du chef d'escale de s'occuper du nettoyage de l'avion. Donc, en général, ces services sont sous-traités. Le tri des bagages, le chargement et déchargement des bagages et du fret ainsi que de la poste. Le chef d'escale est évidemment responsable d'un départ ponctuel de l'avion. Un des critères les plus importants de service, surtout pour un homme d'affaires qui couvre une courte distance telle que Paris-Genève ou Paris-Zurich, un départ ponctuel est très important.
Au milieu des pistes, donc, il y a les paysans qui continuent à cultiver le maïs, le blé, toutes ces choses-là. Donc il y a des tracteurs qui passent, il y a tous ces aspects-là. Puis il y a une zone industrielle, un endroit avec plein de vieux bidons, une usine à moitié désaffectée, à moitié rouillée.
Les faux-semblants, moi, c'est des choses... C'est un petit peu ce que je cherchais sur, sur Roissy, c'est-à-dire un petit peu les deux discours qui sont donnés par l'aérogare. Donc il y a ça, et j'ai essayé de chercher des choses qui étaient comme ça sur la limite quand je faisais le bouquin. Donc il y avait cet aspect-là. Moi, c'était l'aspect principal, c'était le souvenir que j'avais des champs, comme ça, de la présence de la nature, le fait que c'était la plaine de France, c'est-à-dire les terres les plus riches de France, abbaye de Saint-Denis, ainsi de suite. Donc il y avait ça, qui devient un lieu de technologie de pointe. Et en même temps, avec l'histoire des 101 Maliens qui sont partis en charter, qui renvoie à quelque chose d'extrêmement... ça renvoie à la barbarie. Donc il y a une espèce de paradoxe immense entre ça, les deux. Donc il y avait ces deux aspects-là qui me plaisaient. Enfin, le mot est piégé, mais enfin, bon, qui me motivaient énormément. Donc j'ai essayé de chercher des choses comme ça qui étaient doubles. Il y avait par exemple l'histoire de ces avions qui décollent et qui sont gênés par des mouettes. C'est-à-dire que les mouettes, j'ai l'impression qu'elles prennent ça pour une étendue libre, et puis le béton qui brille doit ressembler à la mer. Donc il y a des milliers de mouettes sur Roissy, et qui mettent en danger les décollages, puisqu'elles se prennent dans les réacteurs, et il peut y avoir... Certains avions ont été contraints d'atterrir à cause de ça. Donc on a mis au point des systèmes avec des gens qui avaient des faucons, et les faucons attaquaient la mouette qui dirigeait le vol de mouettes au moment des départs d'avion. Et puis on s'est aperçu que c'était un petit peu trop cher ce genre de choses, et maintenant il y a des voitures qui passent avec des haut-parleurs, et un chercheur, un ornithologue, a réussi à capter le cri du prédateur de la mouette. Donc les mouettes s'égayent quand ils entendent ça, et en fin de compte c'est une bande magnétique.
En fait, ce faux semblant, c'est l'esprit de Roissy un peu pour vous.
Voilà, c'est ça. Donc le livre fonctionne totalement sur ça, puisqu'il est question beaucoup, vers la fin du livre, d'hologramme, c'est-à-dire de ces espèces de créatures de lumière reconstituées par le laser, qui sont des technologies de pointe très très fines, qui commencent à être utilisées dans l'aéronautique, puisqu'on est en train de mettre au point, dans les cabines d'avion, des hologrammes qui donneront toutes les indications de vol et qui seront des espèces de projections dans l'espace, qui seront devant les yeux du pilote, et il pourra complètement regarder et voir la piste en même temps. Le laser va arriver très très bientôt. Moi, je l'ai pas avancé de 4 ou 5 ans dans le livre, mais ça va arriver. Donc on va dominer la réalité grâce au leurre.
Les Îles-de-France. Simone Douek, Michel Bossuet. Prise de son, Pierre Caumont. Mixage, Jean Fèvre. Un auteur, Didier Denax. Un roman, Lumière Noire, Série Noire, Gallimard. Un aéroport, Roissy en France. Remerciements, la direction de l'aéroport de Paris, la gendarmerie de Roissy.
Je m'arrête moi de temps en temps sur ce pont pour attendre que le soleil se dégage d'un nuage et que le soleil tape sur le toit de la basilique. Et d'un seul coup, il y a le vert qui devient vraiment très, très puissant, comme ça, au milieu des toits, au milieu de Toussaint-Denis. Et avec l'eau qui est devant, avec les écluses, les espèces de niveaux d'eau, comme ça, c'est vraiment des choses. Il y a des endroits comme ça. Et juste quand on est dans ce point de vue-là, à gauche, il y a une usine, j'ai jamais su ce que c'était, qui est totalement en bois, qui est massive, et, avec une cheminée noire. Comme ça, qui est juste là, qui est planté. Là, c'est vraiment un endroit splendide.
C'était un auteur, Didier Daninx, un roman, Lumière noire, un aéroport, Roissy en France, un numéro des Îles-de-France proposé par Simone Dweck le 15 février 1988 sur France Culture.